7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. En cette journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, gros plan sur les enfants pauvres. Si vous nous écoutez sur le continent africain, vous savez parfaitement de quoi on parle. Des enfants mal nourris, mal soignés, déscolarisés, jamais scolarisés plutôt, obligés de travailler. Mais en Europe, ça ressemble pour certains d'entre vous à une plaisanterie cette question. Vous nous l'avez écrit sur nos réseaux sociaux. Pourtant, un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté en France. Et être un enfant et avoir faim, que ce soit en France, que ce soit au Royaume-Uni en 2019, c'est une réalité largement ignorée et difficile à appréhender, tant la pauvreté dans les pays riches est la pire des tares sociales. Contrairement à l'Afrique, ces enfants ne sont pas privés d'école, mais leur destin est largement compromis. Alors comment et pourquoi les politiques sociales ne parviennent pas à mieux protéger ces enfants? Quelles conséquences aussi sur la progression inexorable des phénomènes de pauvreté? Les citoyens sont-ils suffisamment informés ou lucides sur cette injustice? On va en discuter avec nos invités. Bonjour Claire Lajeuny.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice de documentaires, vous avez beaucoup travaillé sur les réalités de la pauvreté, notamment votre dernier documentaire qui a été diffusé sur France 5, Pauvres de nous, et qui a donné lieu aussi à un livre aux éditions Michalon. Également dans le studio avec nous, Corinne Makowski. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire nationale du Secours Populaire Français. Et quant à vous les voisins, vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à l'émission en nous appelant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp pour nous téléphoner gratuitement. On ira en deuxième partie d'émission en République démocratique du Congo où l'école gratuite se met très difficilement en place, alors qu'au moins 3,5 millions d'enfants ne sont pas du tout scolarisés, nous expliquera notre correspondant Patient Ligaudi.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Alors c'est vrai que quand on pose la question de la pauvreté des enfants, ce sont nos auditeurs en Afrique subsaharienne qui nous répondent massivement. Il est vrai aussi qu'ils sont plus nombreux à nous écouter. Chez nous, nous dit Julien à Bukavu en RDC, le pantalon était destiné aux grands et pour les petits c'était les culottes courtes. Entre enfants, il n'y avait pas assez de vêtements pour chacun, donc on portait tous les mêmes vêtements. Porter une jupe quand on est un garçon, ça passe, mais pas après 5 ans. Armat à Marwa au Tchad. Chez moi, au Tchad, il est originaire du Tchad, et il nous dit, chez moi au Tchad, certains enfants sont terrifiés à l'idée de devenir pauvres. Brice à Yaoundé, toujours là au Cameroun, la pauvreté est un héritage, nous dit Brice, naître pauvre ou grandir pauvre est logique pour nous, naître dans la richesse est une chance. Et puis aussi le commentaire de cette voisine à elle, le problème ce ne sont pas les enfants mais plutôt les parents qui doivent penser au lendemain de leurs enfants, il faudrait se demander si leur situation leur permet d'avoir un enfant, deux enfants, trois enfants. Voilà, c'est une question qu'elle pose, mais évidemment ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'opinion commune, Claire Lajeuny, non ? Une forme de responsabilité des parents à l'égard de leurs enfants ?
Ah, ça c'est sûr, ils sont complètement conscients de ce qu'ils font porter à leurs enfants, mais en même temps c'est difficile de dire je fais pas d'enfants parce que j'ai pas d'argent. Enfin, c'est une question complexe quoi. C'est vrai que dans les familles pauvres on retrouve beaucoup d'enfants, des enfants, des familles nombreuses, et parfois on s'interroge en se disant est-ce que tout ça est bien sérieux, est-ce que il faudrait pas un peu limiter ces naissances pour parce que remplir un frigidaire pour un enfant quand c'est compliqué, mais pour 10 ou au moins 3-4, c'est encore plus.
Vous nous parlez d'un pays où, en principe, je dis bien en principe, il y a un accès à la contraception dans les pays d'Europe, mais ce qui n'est pas si évident que cela d'ailleurs.
Non, après, c'est chaque histoire est propre, et puis voilà, ça relève de la conscience de chacun finalement.
Un enfant sur cinq en France, 20% des enfants sous le seuil de pauvreté, c'est plus que la moyenne nationale qui se situe, toutes générations confondues, autour de 14%. Je parle sous votre contrôle, Corinne Makowski, secrétaire nationale du Secours Populaire Français. 62% des enfants qui ont peur de devenir pauvres, selon un sondage Ipsos Secours Populaire. Je vous propose tout de suite d'écouter comment des enfants de 8 ans parlent de la pauvreté, alors qu'ils fréquente le soutien scolaire du Secours Populaire dans le 13e arrondissement de Paris, dans le centre de Paris.
Pour moi, être pauvre, c'est ne pas avoir d'argent, vivre dehors, devoir supporter ça. J'ai vu des enfants en train de souffrir parce qu'ils n'avaient pas à manger. Leur mère, elle leur disait du calme, peut-être un jour on va trouver de quoi se nourrir, de quoi avoir un toit.
Dans la rue, t'as entendu une maman qui disait ça ?
Oui. Moi, j'ai peur de devenir pauvre parce qu'après moi, je peux pas du tout tenir d'être pauvre comme ça une journée.
Comment ça pourrait arriver ? C'est-à-dire que vous savez comment on devient pauvre ?
On peut avoir des problèmes au travail et du coup perdre sa maison. En fait, ma mère, des fois, elle me dit, faut pas que je sois en retard. Tu veux qu'on perde de l'argent, tu veux... Elle est pressée pour aller au travail encore plus vite parce que sa patronne, elle crie, elle lui crie dessus.
Ça veut dire que, en fait, ta maman, elle te dit que si elle va pas au travail, elle pourra pas gagner assez d'argent, c'est
oui.
ça ?
À l'école, il y a des gens qui se traitent entre eux de pauvres.
Est-ce que dans votre école, dans votre classe, vous savez s'il y a des enfants qui sont pauvres ou plus pauvres que vous ?
J'en ai un, il est venu à l'école, il avait dit qu'il avait pas mangé, il restait pas à la cantine, et comme il restait pas à la cantine, il mangeait rien chez lui. Il avait mal au ventre quand il est venu à l'école, il a dit qu'il mangeait pas le soir, ni le midi, il mangeait que le matin. Et donc du coup, il est venu avec mal au ventre à l'école.
Moi, pour moi, même pour les enfants, ça fait mal au cœur de les voir souffrir aussi. Même si c'est dans une école, quand même, on peut l'aider peut-être avec les parents. On peut essayer de voir un jour ses parents. On pourra l'inviter à manger. Et cette fois, très très bien manger parce qu'il a très souffert.
Corinne Makowski, qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à l'étude qui a été menée par le Secours Populaire dont vous êtes la secrétaire nationale ?
Donc cela fait 13 ans cette année que le Secours Populaire régulièrement chaque année questionne des personnes sur le ressenti de la pauvreté. Est-ce qu'elles pensent qu'un jour elles-mêmes vont sombrer dans la pauvreté ? Et là, on a mis un focus sur les enfants. Et donc, on a donné la parole aux enfants. Et les témoignages que nous avons entendus expriment effectivement combien les enfants, d'abord, prennent conscience qu'autour d'eux, il y a d'autres enfants qui vivent mal, qui se privent. Ils parlent de se priver de manger. Mais dans notre enquête, les signes qui sont perçus par les enfants sont aussi le fait de leurs copains et copines à l'école qui ne partent pas en vacances ou qui ne changent pas régulièrement de vêtements. Donc c'est des signes un peu extérieurs qui fait dire aux enfants, nous on connaît autour de nous des enfants qui vivent mal, et là je pense qu'il y a encore des témoignages encore plus prégnants d'enfants qui disent qu'ils ne mangent pas correctement à la maison. Donc c'est privation. Donc cette prise de conscience des enfants, elle est importante, elle est bien réelle. Et d'un autre côté aussi, et des enfants l'ont dit dans les témoignages, il faut faire quelque chose. Et donc, il y a beaucoup d'enfants aussi dans ce sondage Ipsos Secours Populaire qui exprime la volonté de faire quelque chose pour d'autres. Et donc ce fond de générosité, de passer à l'action, je trouve est quelque chose d'encourageant. Et la notion même de solidarité qui doit être au cœur de nos sociétés, et pas seulement qu'en France, puisque c'est quand même une notion qui est universelle. La solidarité, elle existe partout. Il faut l'encourager pour lutter contre cette pauvreté et précarité.
On l'entend dans les témoignages recueillis par Alice Milo, dans ce centre de soutien scolaire Secours Populaire. Ils ne sont pas tous en situation de grande précarité. Néanmoins, on l'entend, il y a un vrai sentiment d'injustice et puis une grande lucidité. Les personnes en situation de pauvreté sont largement stigmatisées, souvent jugées en partie responsables de leur malheur, même si on a de plus en plus de personnes pauvres qui travaillent à temps plein. Mais ces idées reçues ne peuvent pas s'appliquer aux enfants qui, par définition, sont des victimes, Claire Lajeunie.
Ah, complètement. Ils n'ont rien demandé. Ils sont nés dans le milieu dans lequel ils évoluent. Ce qui est certain, c'est que je vous rejoins, c'est qu'ils sont très conscients, en fait, d'une réalité. C'est-à-dire que même si les parents les protègent, ils sont conscients que quand ils ouvrent la porte du frigidaire, il n'y a rien. En tout cas, c'est assez vide. Ils sont conscients des colis alimentaires. C'est-à-dire qu'ils aident leur maman à porter les colis, les paquets. Le manque de marque, de nourriture, le manque de gâteaux, enfin des choses qui sont basiques pour certaines familles, ne le sont pas pour ces enfants. Donc évidemment, ils sont conscients, les parents les protègent tout de même, mais ils voient bien qu'ils évoluent dans une maison où il n'y a pas forcément tout dans les placards.
D'autant plus qu'ils évoluent dans une société de consommation, dans une société riche.
De paraître, oui.
Exactement. Et vous avez travaillé, Clara Lajeunie, sur la pauvreté à travers les âges, hein, pour votre dernier documentaire et livre aussi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être un enfant dont la famille vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1026 euros par mois? Comment on fait? Vous avez suivi un collégien, Mathéo, de 12 ans, dans une petite ville près d'Angers. Il est dans une famille recomposée. Il y a en tout 5 enfants, me semble-t-il,
oui,
avec lui. Hein,
5 enfants.
C'est ça.
Oui.
Un papa qui travaille à temps partiel. Enfin, en tout cas, un père qui n'est pas le père de tous les enfants. Mais une mère qui ne travaille pas. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce quotidien que vous avez suivi?
En fait, moi, j'ai découvert les chiffres, 3 millions d'enfants pauvres, je crois que c'est 2 enfants par classe, enfin, c'est colossal, et du coup, ça m'a complètement troublée, et je me suis demandé toutes les questions que vous posez, c'est-à-dire que concrètement, comment vit un enfant cette réalité? Et en fait, j'ai rencontré le Secours Populaire, qui m'a ouvert les portes de leurs plusieurs délégations, et je suis arrivée à Angers, parce que c'est une petite ville, et j'avais envie de parler de ruralité aussi, parce que ça raconte aussi qu'il n'y a pas de boulot, parce que on n'a pas forcément les bons transports, il n'y a pas beaucoup d'emplois, on sillonne autour d'un périmètre de 50 km, donc la maman, elle a 4 enfants, elle ne peut pas travailler parce qu'elle coûte plus cher de faire garder ses enfants. Voilà, ils ne peuvent pas se payer la cantine. Moi, j'ai découvert ça, c'est-à-dire que je pensais qu'il y avait des fonds sociaux qui pouvaient aider pour que les enfants mangent à leur faim. Par exemple, ce petit garçon, quand je le rencontre, Mathéo, qui a 12 ans, il fait 20 minutes de transport à pied, aller, 20 minutes retour pour venir manger chez lui. Rien, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer la cantine. Et quand il a 2,30 euros dans sa poche, il s'autorise à payer la cantine. C'est quand même...
Il y a 40 000 enfants en France qui ne prennent pas 3 repas par jour. Ça semble énorme, Corinne Makowski.
Oui, vous savez, au Secours Populaire, c'est pas un chiffre dont on se réjouit, mais l'année dernière, nous avons aidé 3 millions de personnes. Et parmi ces personnes, évidemment, qui sont en situation de pauvreté ou de précarité, près de la moitié sont des enfants. Donc, vous voyez, c'est tout à fait important. J'ajouterai juste que la notion d'enfant pauvre, elle est un peu gênante. Et on préfère dire, ce sont des enfants
en
qui ont plein de richesses. Voilà,
en situation de pauvreté.
Qui vivent voilà, dans un foyer en situation de pauvreté.
Tout à fait, vous avez raison
voilà,
de le souligner.
Voilà, sinon, les enfants sont riches en eux, plein d'imagination, de créativité. Voilà. Donc, ils ont des ressources aussi. Donc, c'est une situation, oui, qui est tout à fait alarmante. Donc, ça, c'est que le Secours Populaire. Il y a plein d'associations aussi qui font plein de choses hein, superbes en direction des enfants.
Sur l'absence de cantine quand même, ça veut dire qu'il n'y a pas de cantine totalement gratuite pour on sait qu'il y a des tarifs dégressifs, il y a des tarifs aidés, des tarifs sociaux pour la cantine. Il n'y a pas de cantine totalement gratuite pour ces enfants-là.
Il y a des lieux qui ont expérimenté ces situations, mais globalement l'accès à la cantine, suivant les ressources, il y a une participation amenée, et parfois pour des familles qui ont plusieurs enfants, ça représente beaucoup, surtout que nous, dans les 3 millions de personnes que nous rencontrons, on a fait une moyenne sur les ressources disponibles pour vivre par jour. Et la moyenne, elle est autour de 5,30 €. Donc vous voyez, c'est quand il faut payer le loyer, le chauffage, payer le bus, enfin voilà, quand il n'y a pas de transport non plus scolaire gratuit, plein de choses comme ça, évidemment, il reste rien. Et souvent, ce sont des familles à qui nous donnons un coup de pouce. Quand on fait le point, il n'y a rien. Ça veut dire qu'elles sont aussi très endettées.
Alors c'est compliqué à comprendre pour certains de nos auditeurs, Claire Lajeuny, parce que dans cette famille que vous avez suivie, où vit ce petit Mathéo de 12 ans, il n'y a rien pour le déjeuner, il y a malgré tout un congélateur, parce qu'on est dans un pays où il y a un accès à l'électricité, Dieu merci, mais où il y a, pour les jours où vraiment il n'y a rien, il y a du pain trempé dans du lait, congelé.
Oui, mais c'est la maman qui m'explique que parfois les colis suffisent pas. Des restos, du secours, de différentes associations, les astuces entre fratries où on s'entraide, d'un coup c'est la sœur qui fait le marché pour les autres, on partage ensuite les lots. Parfois il y a cette peur de rien donner à manger à ses enfants et du coup elle anticipe. Et effectivement, dans son congélateur, je me surprends à regarder ces gros saladiers de lait congelé avec du pain au cas où. Et franchement, cette maman, quand elle m'explique ça, elle n'est pas très à l'aise. Mais c'est aussi une anticipation. Voilà, ce petit garçon, il m'explique aussi en demi-confidence que parfois, il voit bien que sa maman ne mange pas pour que lui mange. Et lui, de temps en temps, il ne mange pas pour que sa petite sœur mange. Ce ne sont que des privations, en fait, au quotidien. On parlait effectivement de 5,30€ en moyenne. Moi, je me suis rendu compte, même si on le sait, mais quand on se retrouve dans une famille comme ça, que 1€, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, ce petit garçon, il aimerait bien aller à la piscine. Quand je les ai rencontrés, c'était la canicule. Il rêvait d'aller se baigner à la piscine municipale. L'entrée était de 1€, il ne pouvait pas y aller.
Alors, il y a des moments qui sont particulièrement difficiles dans l'année où, certes, la privation, elle est quotidienne, elle est permanente, mais il y a des moments où c'est d'autant plus compliqué par rapport au reste de la société.
Complètement. On parlait tout à l'heure de cette société d'apparence. On est avec un enfant qui a 12-13 ans, qui est en cinquième, et qui a envie d'avoir les bonnes baskets, le bon sac à dos, la trousse, et qui peut pas. Et qui, heureusement, continue à demander à sa mère. Ça veut dire qu'il a encore des rêves, ça veut dire qu'il y croit encore, qu'il espère un jour les avoir, ses baskets. Et du coup, il n'est pas résigné. Et moi, ça, j'ai bien aimé le discours de cet enfant, parce que ça veut dire qu'il sait qu'il est dans une mauvaise passe. Il sait que, bon, ben, il n'est pas comme ses copains. Mais en même temps, il n'a pas cessé d'y croire. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et sa maman, effectivement, ça lui renvoie effectivement à cette complexité. Et quand elle nous explique que c'est la rentrée des classes et que malgré les aides du secours, encore une fois, ces colis de rentrée des classes avec les cahiers, mais qui ne sont pas forcément avec des marques, etc., permettent quand même déjà d'avoir le crayon et les fournitures scolaires pour la rentrée. Mais tout le reste, tout ce qu'on aime faire, c'est-à-dire emmener ses enfants dans un supermarché et dire « choisissez, c'est la rentrée, vous allez avoir la nouvelle tenue de votre rentrée », il n'y a pas. Cette maman, elle va en solde avant, préparer, acheter en solde avant pour cueillir la bonne tenue pour la rentrée. C'est que de l'anticipation finalement.
C'est compliqué de demander à un enfant s'il veut bien être filmé dans son quotidien parce qu'il vit en situation de pauvreté.
Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que...
Qu'est-ce qu'on lui demande concrètement? On lui dit ça?
Oui, on lui dit ça. On lui ment pas, en tout cas. Moi, quand j'ai décidé de faire ce film, j'ai eu envie de raconter un cycle de vie, donc démarrer avec un enfant, parler de déterminisme social, c'est-à-dire que est-ce que quand on est pauvre, est-ce qu'on meurt pauvre? Est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on a le droit, même en faisant des études, d'évoluer et de pouvoir imaginer qu'on va s'en sortir? Et donc, je lui explique tout ça en disant, voilà, j'ai envie d'avoir tes mots, j'ai envie que tu m'expliques ton quotidien, ce qu'on est en train de raconter. Ouvre-moi les portes et tu vas pas être montré du doigt parce qu'en même temps, tu assumes. Et en même temps, c'est pas honteux. Parce qu'il ressemble pas, il a pas des trous dans ses affaires, il est pas en haillons, il est pas, sa maison est propre. Sa maman tient ses...
Propre et vide.
Propre et vide,
Vous la décrivez bien d'ailleurs.
Oui, parce que il y a pas grand chose, il y a pas beaucoup de jouets, il a pas le téléphone portable, il a pas l'ordinateur, il y a quand même une télé évidemment, mais enfin il manque. L'anniversaire, voilà, effectivement, pour son anniversaire, il rêve de ce fameux téléphone portable dont tout le monde rêve en cinquième. Et sa maman lui offre une montre qu'elle a trouvée dans une petite boutique et il est extrêmement déçu. Et ça, c'est d'une tristesse absolue, quoi.
Lui dire la vérité quand vous voulez le filmer, hein, que vous faites un travail sur les situations de pauvreté. Mais les parents, que disent-ils ou que cachent-ils à leurs enfants, Corinne Makowski?
Ben, ils essayent d'être comme tout le monde. Il y a l'apparence. C'est vrai qu'on peut avoir des fois une image de la pauvreté parce que les gens sont mal habillés et tout ça. Non, les gens sont nos voisins. C'est-à-dire que c'est pas une misère qui se voit.
Parce qu'il y a aussi des colis hein, de vêtements.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui, sur le terrain, effectivement, proposent, mettent à disposition. Mais ce sont des coups de pouce. Mmh. Ça ne règle pas, évidemment. On ne nourrit pas une famille pendant tout un mois.
C'est ce qui rend finalement beaucoup plus compliqué pour les autres citoyens, pour le reste de la société, de comprendre ce que signifie être pauvre. Parce que justement, à l'œil nu, ça ne se voit pas tant que cela.
Et oui, mais je pense que le sondage que nous sortons chaque année révèle aussi que dans la société aujourd'hui, énormément de personnes savent qu'autour d'elles, il y a des gens qui vivent pas bien, qui se privent. Et d'ailleurs, elles y sont elles-mêmes confrontées dans leur environnement familial souvent ou professionnel. Parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi des gens qui ont un travail mais qui vivent pas bien. Et dans des entreprises aussi, les gens connaissent des collègues. C'est pareil, on part pas en vacances, on change pas de voiture, on a des difficultés. Ils n'expriment pas comme ça, mais ils savent bien que les gens ont du mal à s'en sortir.
L'exclusion sociale vis-à-vis du reste du pays, parce que là, on l'a vu, il y a le problème des parents qui font tout pour, en tout cas, minimiser la réalité par rapport à leurs enfants. Mais à l'extérieur de la maison, au-delà des difficultés matérielles, il faut tout faire pour ne pas montrer sa situation, Claire Lajeuny.
Ah oui, la grande sœur de Mathéo, Maëva, qui a 15 ans, elle me dit, moi, j'invite pas des copines à la maison parce que j'ai pas envie qu'elle voie ça, même si j'en parle pas, j'essaye de pas trop cacher. Il n'y a pas de honte parce qu'ils assument, mais ils n'ont pas non plus envie d'insister, quoi. Donc oui, on essaye de faire comme tout le monde, on essaye de ressembler à ses copains, à ses copines, on trouve des astuces tout le temps en fait. Maëva, dès qu'elle peut, elle fait des petites heures de ménage et avec les 10-12 euros qu'elle a, elle remplit le frigidaire pour essayer. Et puis c'est marre, quoi. On a envie de gâteau, on a envie de Nutella, on a envie de. Voilà, on est des ados, on a envie de choses concrètes, quoi.
Mais ça, survivre sans montrer, c'est finalement un peu une double peine.
Tout à fait, et on s'exclut de la société. Je rebondis sur le petit Mathéo, l'anniversaire, parce que Mathéo dit dans ce film aussi qu'il peut pas inviter des copains à son anniversaire. Alors il en a un qui est très proche, qui connaît un peu la situation, et sa maman, elle fait un gâteau au yaourt, elle fait quand même quelque chose. C'est aussi compliqué pour lui d'être invité chez des copains pour fêter leur anniversaire, parce qu'il peut pas ramener de cadeaux. Donc les gens s'isolent, et nous, on avait vu aussi que les associations comme le Secours Populaire et d'autres sont aussi des lieux où les gens peuvent aussi échanger, parler, faire des activités avec d'autres. Et lorsque les gens rentrent chez eux, ben oui, ils s'isolent parce qu'ils ne vont plus au théâtre, ils ne sortent plus. On se cache un peu des voisins parce qu'on n'ose pas parler de la situation. Oui, c'est une exclusion sociale qui est très forte. Moi, je trouve que c'est une grande violence sociale que subissent toutes ces personnes, mais en particulier les enfants.
9 300 000 personnes en situation de pauvreté en 2018 et en 2018, hein, puisqu'on n'a pas encore le chiffre 2019, hein, 9 300 000 personnes contre 9 800 000 personnes en 2018, hein, c'est bien cela, Corinne Makowski. On était à moins que cela un an avant, à 9 300 000. Pourquoi ce chiffre augmente finalement?
Mais écoutez, on sait que les inégalités se creusent et qu'on est dans une société qui tire vers le bas, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de plus en plus de gens qui se retrouvent dans ces situations. Il y a tous ceux qui sont juste au-dessus. Vous parliez de 1026 euros, ça c'est le seuil du montant là, de pauvreté, mais tous ceux qui sont juste au-dessus, évidemment, ne sont pas considérés comme pauvres. Et pourtant, ils vivent très mal. Ils ont des ressources, ils ont une activité, mais ils ne s'en sortent pas. Et vous savez, ça va très vite de basculer de l'autre côté, parce qu'il peut y avoir... Souvent, c'est des situations de rupture. D'ailleurs, il y a beaucoup de mamans seules qui se retrouvent avec des enfants hein, dans ces situations. Il peut y avoir la maladie, évidemment, une perte d'emploi, mais on peut basculer rapidement. Et sans faire de politique, bien sûr, mais je pense que...
Mais si, on va en faire, au contraire.
les gilets jaunes, quelque part, ont révélé cette frange de la population qui a des ressources, des retraites, qui travaillent, mais qui ne s'en sort pas. Et là, il y a vraiment une fragilité. Il faut vraiment mettre en place des initiatives pour que ces personnes ne basculent pas. Vous voyez, dans la pauvreté, c'est-à-dire après c'est trop tard.
Soyons bien clairs, le phénomène des gilets jaunes, c'était pas un phénomène de la grande pauvreté.
Non, non, de ce que j'appelle les gens qui sont en situation de précarité, c'est-à-dire il y a un seuil, pauvreté, mais précarité, c'est juste au-dessus. Et ça ne veut pas dire qu'on vit bien, on ne vit pas bien.
Alors on va en discuter justement des politiques sociales, parce qu'il faut bien parler des politiques sociales et des raisons pourquoi ces personnes se retrouvent en situation de précarité ou de grande pauvreté. De quoi les enfants sont-ils les victimes lorsqu'ils sont pauvres? Je vous propose de prendre la direction de Glasgow, à l'ouest de l'Écosse, au Royaume-Uni, qui compte plus de 4 millions d'enfants pauvres dans tout le pays. C'est une ville de 600 000 habitants, avec un vrai problème de pauvreté infantile. Charlie Dupiot a joint Suzy Scott, qui est manager du projet Everyone's Children, les enfants de tous. C'est un programme qui est financé par le gouvernement écossais en lien avec des associations locales et elle est très engagée auprès de ces enfants défavorisés.
Glasgow.
Glasgow, où j'habite, a l'un des taux de pauvreté infantile les plus élevés du Royaume-Uni. Nous estimons qu'un enfant sur trois vit dans un foyer sujet à la pauvreté. Dans certains quartiers de la ville, ça concerne deux enfants sur trois. En tout, ça représente 50 000 enfants qui vivent dans la pauvreté. Pour ces enfants, cela veut souvent dire qu'il n'y a pas assez de nourriture à la maison. S'ils ont besoin de nouveaux vêtements ou de nouvelles chaussures, les parents vont devoir renoncer à payer les factures d'électricité. Au Royaume-Uni, il y a eu une telle période d'austérité que les prestations de l'État, comme les allocations familiales, ont été gelées. Et sur le long terme, il est devenu plus difficile de les toucher. Alors que jusque-là, le gouvernement avait réussi à contenir la pauvreté infantile. Cette pauvreté touche surtout les familles monoparentales, la plupart du temps des femmes qui ont un emploi à temps partiel et mal payé. Elles travaillent dans le tourisme et dans d'autres industries de services. Avant, ces familles étaient défavorisées parce que personne ne travaillait. Mais aujourd'hui, le taux de chômage est de 5% seulement à Glasgow. Cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas été aussi bas. Je n'en ai pas le souvenir en tout cas.
Comment a évolué cette pauvreté infantile ces dernières années ?
À Glasgow, il y a 10 ans, je pense qu'il y avait quelques distributions alimentaires de temps à autre pour les urgences de court terme. Aujourd'hui, les gens ici ont besoin de nourriture de manière régulière. En tout, au moins 40 ou 50 organisations distribuent maintenant des sacs de nourriture à des gens qui ne peuvent plus se permettre de les acheter. Je pense par exemple à cette femme qui a deux enfants inscrits à l'école primaire. Elle s'est séparée de son conjoint, il a disparu de la circulation. Elle travaille dans un hôtel mais ne gagne pas beaucoup. Ses enfants, comme d'autres, ont droit à un repas gratuit par jour pendant les trois premières années de leur école primaire. Tous les élèves en bénéficient pour ne pas créer de stigmatisation. C'est une mesure appliquée dans toute l'Écosse. Certaines écoles fournissent aussi le petit déjeuner, car elles voient des enfants arriver en classe la faim au ventre. Sinon, au petit déjeuner, certains enfants mangent un toast, une tranche de pain tartinée de confiture, car c'est vraiment peu cher. Et les dîners ne sont pas très équilibrés, plutôt gras, beaucoup de pizza ou de plats préparés.
Ça mène à une alimentation qui n'est pas équilibrée.
Non, beaucoup de biscuits aussi. Les biscuits ont du succès aux banques alimentaires.
Et vous, Suzy Scott, qui êtes manager du projet Everyone's Children, qui travaille donc avec le gouvernement écossais en collaboration avec des associations sur cette question de la pauvreté infantile en Écosse, comment vous voyez la situation évoluer dans les prochaines années? Comment vous voyez l'avenir?
Le gouvernement, les associations et la ville encouragent les employeurs à payer plus que le salaire minimum, qui est de 9 euros de l'heure. Mais vous savez, nous sommes inquiets, particulièrement si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne avec le Brexit. Inquiets que les choses n'empirent sérieusement, surtout pour les familles pauvres.
Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la France, Corinne Makowski? Aujourd'hui, vous décrivez, vous aussi, au Secours Populaire, des familles qui ne peuvent plus se passer des colis alimentaires. Qu'est-ce qui dysfonctionne dans les politiques sociales? On a eu un plan pauvreté. C'est quoi les trous de ces politiques pour qu'on en soit là?
Alors, ce que je peux dire, c'est que du côté du Secours Populaire, évidemment, on est face à ces réalités, donc on constate et on le dit au pouvoir public, et on dit aussi comment les choses évoluent et les conséquences dans la vie même des gens. Évidemment, nous, on fait notre part. Et
vous attendez quoi en face?
Au niveau des pouvoirs publics, à prendre leurs responsabilités.
C'est-à-dire,
je veux dire, on n'a pas à leur dire ce qu'ils doivent faire, c'est à eux à trouver les solutions pour faire.
Non, mais vous demandez quoi concrètement? Qu'est-ce qui a manqué dans le
déjà,
plan
nous on explique, quand on parle que les gens, un Français sur cinq ne mange pas à sa faim, c'est à sa faim, hein. Il y a bien sûr l'équilibre alimentaire correctement, mais à sa faim, ça c'est une réalité. Donc oui, ce qu'on peut faire, de toute façon, ces familles, il y a plusieurs éléments. Il y a, si elles ne disposent pas de ressources suffisantes, puisque tout est marchandisation, eh bien elles ne peuvent pas avoir accès. Donc il y a une question d'accès à des produits de base. On parlait du niveau scolaire, effectivement, la cantine, elle devrait être gratuite partout. Donc là, on est dans une période où on va tester dans certains départements, certains établissements scolaires, cette question. Mais j'allais dire, elle devrait se généraliser très vite, on l'espère, au moins un repas équilibré, correct, par jour, ce serait le minimum. Nous, on voit aussi beaucoup d'enfants et de plus en plus qu'on appelle non accompagnés. Des mineurs isolés qui n'ont même pas accès à l'école, parce que parfois on leur refuse l'accès à l'école. Donc il y a des choses qui fonctionnent pas. Donc il faut que ça se remette en place, mais aussi il y a le fait de l'éloignement de ces familles qui sont déjà en difficulté pour l'accès à leurs droits, parce qu'elles ont aussi des droits. Elles ne peuvent pas y avoir accès parce que de plus en plus on dématérialise toutes les démarches que les personnes doivent faire. Il y a plus de personnes avec des bureaux à qui on peut parler, donc les gens sont des numéros. Il faut avoir internet, évidemment.
Pour rappeler, il y a un certain pourcentage de la population qui ne touche pas les aides sociales auxquelles elle a droit.
Oui, tout à fait, c'est le non-recours au droit. Les défenseurs de droit publient les chiffres régulièrement, mais c'est assez effrayant et ça s'amplifie avec la dématérialisation. Donc je pense que tout le monde est d'accord, il faut passer au numérique, mais en tout cas peut-être qu'on est allé trop vite, sûrement. Les gens ne sont pas accompagnés et ils se trouvent exclus de ces dispositifs. Et là, effectivement, les associations, elles essayent de faire en sorte que les gens trouvent le chemin pour y aller. Ceci dit, ce n'est pas non plus aux associations à se substituer au rôle des pouvoirs publics.
Et des assistantes sociales.
Tout à fait. Alors les assistantes sociales, elles sont aussi, je pense, limitées dans leur champ d'intervention. Donc on travaille quand même en bonne intelligence, hein, avec l'ensemble des acteurs sociaux. Elles sont dans un périmètre contraint. Mais en tout cas, il y a énormément d'efforts. Donc il faut reconnaître la place des associations, les dynamiques locales, des familles qui s'organisent dans les quartiers. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'innovation, d'imagination. Il faut donner plus de moyens, il faut soutenir cette dynamique. Et puis, il faut prendre des dispositions, effectivement, pour que les gens aient plus d'accès monétaire à un certain nombre de choses. Je crois aussi que c'était évoqué à Glasgow, mais c'est ce qu'on constate aussi, hein, puisqu'on connaît la situation des parents. La précarisation de l'emploi. Oui, il y a de l'emploi, il y a des gens qui travaillent. On pourrait dire que ça baisse un petit peu, il y a des gens qui ont plus de travail, mais c'est la précarisation de l'emploi, c'est-à-dire les emplois à temps partiel dont on parlait. Même si c'est des CDI, c'est à temps partiel, c'est pas assez d'argent. Ou alors des CDD qui s'enchaînent, et de plus en plus.
On le voit bien, effectivement, le chômage n'est pas le problème numéro un aujourd'hui qui crée de la précarité, de la pauvreté.
Moi, je voudrais rajouter aussi quelque chose quand on parle de pouvoir public. Moi, j'ai vu, en fait, quand j'ai commencé à faire mon enquête, on m'a dit, tu vas parler de la pauvreté des enfants. Mais effectivement, aujourd'hui, en 2018, 2019, un enfant ne meurt pas de faim en France, c'est pas possible. Attention, non, il meurt pas de faim, mais en même temps, il a faim. Et j'ai même vu, je pense que là, il faut tirer une sonnette d'alarme, et je pense que vous n'allez pas me contredire, c'est que, en fait, ces colis alimentaires sont faibles aussi. Pénurie de lait, peu de viande, plus de laitage. Alors ok, moi j'ai été tournée, j'ai mis mes caméras dans la collecte de toutes ces associations où ils sont tous là, hein, le Secours Populaire, le Reste du Cœur, à récupérer en fait les invendus des supermarchés. C'est plutôt bien huilé, on a beaucoup progressé en France là-dessus, mais il y a quand même un gros problème de fond avec pourquoi il y a autant de brioches et de petits pains et pas de lait, pas de viande. Enfin voilà, ces enfants, ok, ils ont besoin de manger, mais pas des brioches quoi. Alors c'est super pour le petit déjeuner, mais il y a quand même besoin de viande. Et là, je pense que le gouvernement pourrait essayer. Enfin, après, moi, je me permets de dire ça, mais je l'ai vu vraiment. Hein. Et quand on arrive dans dernière pour son colis, quand il y a eu 50 familles qui sont passées avant vous, ben, vous n'avez plus de viande, vous n'avez plus de laitage et vous avez à peine une bouteille de lait pour la semaine.
On arrive bientôt au terme de cette discussion, mais on va surtout prendre la direction de la RDC pour parler de l'école gratuite. Mais Corinne Makowski, en quoi la pauvreté des enfants est finalement une machine à faire progresser aussi le phénomène? Parce qu'on a dit, les enfants sont la première cible de la précarité, mais comment ça procède à refabriquer encore de la pauvreté?
Alors moi, j'ai trouvé un chiffre il n'y a pas longtemps, de l'OCDE, qui est assez récent, sur cette question de pauvreté, qui dit qu'en France, on a reculé par rapport à d'autres pays européens. C'est-à-dire qu'il faut 6 générations. Quand quelqu'un est pauvre, il faut 6 générations pour se sortir de cette pauvreté. Et donc, c'est énorme. Et un autre chiffre, j'ai parlé tout à l'heure qu'on avait aidé, on est à 3 200 000 personnes. 10 ans auparavant, c'était 1 200 000 personnes en moins. Ça veut dire qu'en 10 ans, on continue de fabriquer de la pauvreté. Donc il faut arrêter cette machine infernale. Pour nos amis qui sont dans d'autres régions du monde, je crois que le chiffre, il est aussi effrayant, c'est 1 milliard d'enfants pauvres. Et on a lancé une campagne qui dit que...
700 millions de personnes pauvres, oui, en effet. On va en reparler
d'enfants.
D'ailleurs, ouais, de personnes pauvres. Ouais. 700 millions. On va en reparler parce que, vous le savez, Esther Duflo, la franco-américaine, a eu le prix Nobel d'économie avec 2 autres chercheurs qui font des travaux sur la pauvreté. On va en rediscuter, mais dans quelques instants, on va faire le point sur l'école gratuite en République démocratique du Congo. C'est une mesure qui est très attendue, notamment justement pour lutter contre l'exclusion scolaire des enfants les plus pauvres. Ça sera juste après Youssou N'Dour. Chez 7 milliards de voisins sur RFI, on parle des situations des enfants en situation de pauvreté aujourd'hui, puisque c'est la journée internationale pour l'éradication de la pauvreté. La RDC se lance dans un nouveau plan pour l'école gratuite. On en parle avec l'un de nos correspondants en RDC. Bonjour Patient Ligaudy.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Le président Félix Tshisekedi a fait de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire son cheval de bataille. C'est pas un sujet nouveau en RDC. De quand date la gratuité de l'enseignement primaire ?
Oui, c'est la constitution de 2006 qui a consacré la gratuité de l'enseignement primaire et c'est en 2010 que les premières réflexions ont commencé à émerger sur sa mise en œuvre.
Alors c'est une mesure qui peine quand même depuis des années à être appliquée.
Oui, il est vrai que le financement public de l'éducation a considérablement augmenté, passant de 9% de dépenses publiques en 2010 à 18% en 2014. Aujourd'hui, le nouveau pouvoir s'est engagé à porter la part de son budget alloué à l'éducation à 20%. Jusqu'ici, la RDC n'octroyait que 500 millions de dollars américains pour tout le secteur de l'éducation. Et cette année, ce secteur passerait d'un des moins bien lotis aux plus budgétivores. Et la gratuité de l'enseignement primaire coûte au trésor public environ 2,9 milliards de dollars américains dans un budget national estimé à 10 milliards de dollars américains pour l'exercice 2020. Reste qu'il faut parvenir à mobiliser les recettes et à convaincre également les partenaires extérieurs pour trouver tout cet argent.
Faire en sorte que l'éducation soit le premier budget de l'État, c'est en principe la norme qui est exigée par les bailleurs de fonds, mais même si les pays n'y parviennent pas forcément, pourquoi la gratuité de l'école est si complexe à mettre en œuvre en RDC au-delà des problèmes financiers, Patient Ligaudy ?
Mais il faut déjà dire que l'État n'a pas vraiment le contrôle de ces segments d'éducation dominés par les écoles conventionnées catholiques, protestantes et salutistes, c'est-à-dire de l'armée du salut, et toutes les écoles n'appliquent pas les mêmes tarifs et les enseignants ne sont pas payés de la même manière. Il va falloir déjà trouver un équilibre. L'annonce de l'application de cette gratuité de l'enseignement coïncide aussi avec d'autres problèmes que connaissaient déjà les secteurs. Aujourd'hui, certains enseignants sont en grève et ils revendiquent notamment l'amélioration de leurs conditions salariales et la prise en compte par le gouvernement des enseignants, qu'on appelle ici non payés jusque-là, et des nouvelles unités.
Et que représentent ces frais comme fardeau pour les parents, donc dans un pays où finalement le secteur de l'éducation est largement privatisé ?
Ah oui, c'est énorme. Plusieurs études démontrent par exemple qu'entre 2006 et 2010, les frais scolaires ont doublé dans les écoles primaires. Cela a eu comme conséquence de mettre beaucoup d'enfants hors du système éducatif et surtout en province.
Cette gratuité, est-ce qu'elle peut permettre d'améliorer les taux de scolarisation, surtout dans les milieux les plus défavorisés ?
Oui, c'est vrai que la RDC a réalisé d'importants progrès dans le secteur de l'éducation. Les taux d'achèvement...
On a perdu Patient Ligaudy, apparemment, qui était en train de nous parler des taux d'achèvement au niveau du primaire. C'est vrai qu'il y a eu un progrès. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le rappeler, mais moi, je vais donner le chiffre. On est passé donc dans le taux d'achèvement du primaire, on est passé de 29% en 2002 à 70% en 2014. Mais c'est vrai aussi que ça reste quand même un des pays avec le plus grand nombre d'enfants non scolarisés. En tout cas, c'est une affaire à suivre, voir comment la RDC peut parvenir à scolariser davantage d'enfants avec enfin la disparition des frais scolaires. Il faut savoir aussi que la RDC, c'est le champion du monde des frais cachés, où il y a notamment des frais de motivation des enseignants qui se substituent largement au salaire des enseignants qui n'est pas versé par les collectivités ou l'État. En tout cas, merci à vous, Patient Ligaudy, d'avoir été en ligne avec nous. On est désolé, la ligne téléphonique a coupé. Je voudrais en profiter puisqu'il nous reste quelques minutes pour avec vous Corinne Makowski du Secours Populaire et Claire Lajeuny, documentariste et auteur du dernier documentaire Pauvre Dounou qui a été diffusé sur France 5 et puis qui a donné lieu aussi à un ouvrage, à un récit. Esther Duflo, économiste franco-américaine qui vient d'obtenir le prix Nobel d'économie avec deux autres chercheurs, deux autres économistes, précisément sur des travaux de recherche sur la pauvreté qui partent du terrain, qui utilisent la méthodologie des échantillons de population comme pour la médecine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Corinne Makowski, le fait qu'on s'intéresse, qu'on récompense des chercheurs sur la lutte contre la pauvreté ?
Voilà, sur la démarche de fond, c'est tout à fait important parce que ça a beaucoup de sens pour l'avenir de nos sociétés. Et voilà, mais j'allais dire inlassablement mouvement depuis des décennies, partout sur la planète. Il y a plein de gens qui font plein de choses avec des résultats tout à fait extraordinaires. Donc ça veut dire que les clés pour sortir aussi des gens de la pauvreté, quand on les organise avec les personnes concernées, on peut trouver des solutions, en tout cas on peut prendre le chemin par rapport à cette solidarité nationale et internationale. Le mot solidarité est tout à fait important, il est d'ailleurs dans la dimension du développement durable pour préserver l'avenir des générations. Et donc, elle est plus que nécessaire voilà, à côté des politiques publiques, bien sûr, mais elle doit aussi être un révélateur pour guider, orienter les politiques publiques.
Est-ce que vous avez le sentiment, Claire Lajeunie, qu'aujourd'hui, la question de la pauvreté est quand même revenue un haut niveau de préoccupation des populations? On recitait d'ailleurs tout à l'heure ce chiffre, on a 20% des enfants qui sont en situation de pauvreté en France, 62% craignent un jour d'être pauvres. On voit bien que c'est très disproportionné, bien évidemment, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est devenu un vrai sujet?
Complètement. Enfin, moi je suis complètement persuadée de ça, et je pense que le regard est très important, le fait qu'on en parle, le fait que vous me demandiez tout à l'heure comment on fait pour que les enfants acceptent de nous ouvrir les portes et de nous parler. Mathéo, après le film et après le livre, il est devenu un petit héros dans son école, parce qu'en fait, les profs ont dit « mais on ne savait pas, tu aurais dû nous dire, pourquoi tu n'as pas osé venir nous parler, etc. » Donc ça raconte quand même que il faut oser, il n'y a pas de honte, c'est parler, c'est ouvrir les portes, et finalement on se ressemble tous, on parle de solidarité. Et puis c'est aussi des enfants qui du coup reprennent confiance en eux, parce qu'en fait ils se rendent compte que le fait d'en parler, on lâche un peu prise. Et c'est des enfants qui croient, qui s'accrochent, qui travaillent bien à l'école, qui évoluent. Moi, ce petit Mathéo, je le suis maintenant depuis un an. Il va bien aujourd'hui. Donc, on peut être un tout petit peu optimiste, même si tout ça est quand même assez difficile et douloureux. C'est des enfants qui veulent s'en sortir, qui ne croient pas à ce déterminisme social, qui ne croient pas finalement à leur situation et qui font tout pour s'accrocher et qui travaillent.
Et puis, montrer aussi qu'on ne se définit pas que par sa situation financière. Peut-être aussi. Non,
exactement, mais surtout, tout à fait, c'est exactement ça. C'est que finalement, un petit garçon de 12 ans, qui n'a pas forcément beaucoup d'argent dans sa poche, peut être copain avec un autre qui en a un peu plus. Et la solidarité, le partage, le regard, se regarder, s'écouter, c'est pas mal aussi.
Parmi toutes les personnes que vous avez rencontrées, Claire Lajeunie, pour votre documentaire, puisque vous avez fait le choix de choisir des personnages qui représenteraient chacun une génération, qu'est-ce qui vous a le plus frappé?
L'amour. Parce qu'en fait, c'est des familles qui s'aiment. Et le petit Mathéo, je sais que plus tard, il aidera sa maman. Parce que finalement, j'ai aussi rencontré une petite mamie qui avait travaillé toute sa vie et qui n'arrivait pas à subvenir encore aujourd'hui à ses besoins malgré sa retraite, malgré le fait d'avoir travaillé toute sa vie. C'est assez douloureux. Et aujourd'hui, c'est sa fille qui lui remplit son frigidaire. Ça veut dire que c'est aussi l'histoire d'une boucle. Et quand on s'occupe de ses enfants, qu'on les préserve et qu'on essaye de les élever comme on peut, même avec des colis alimentaires, c'est des enfants qui peuvent avoir une vie, des beaux métiers et aider leurs parents plus tard.
Corinne Makowski, aujourd'hui, le Secours Populaire, comment vous voyez l'avenir de vos missions?
Nous, on croit beaucoup dans les enfants et les jeunes. Et nous avons un grand mouvement d'enfants qui s'appelle les Copains du Monde. Et justement, ce sont des enfants qui, par des activités bénévoles, s'impliquent. Et pas simplement, alors ils s'expriment, c'est très important, pouvoir dire les choses et ne pas avoir honte de les dire. Mais surtout, ce qui est super, c'est qu'ensemble, ils trouvent des solutions. Et voilà, c'est des petites choses, mais finalement, ça grandit et ils se rendent compte aussi qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place à partir du moment où on le fait collectivement. Donc les associations, la vie associative, quelle qu'elle soit, elles sont aussi un vecteur important de l'émergence de cette graine de solidarité à travers les enfants. Et j'allais dire, elles se diffusent largement à travers le monde et dans de nombreux pays qui reprennent cette idée de mettre en action des enfants. Voilà, de réfléchir et de
montrer que
d'agir.
Tout le monde est concerné, surtout.
Oui.
Merci à vous, Corinne Makowski, secrétaire nationale du Secours Populaire Français. Merci à vous, Claire Lajeunie, réalisatrice de documentaires. Le livre, c'est Pauvre de nous, édition Michalon, et le documentaire a été diffusé sur France 5. Je ne sais pas s'il est encore disponible sur Internet. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera éducation pendant toute l'émission, et ça sera un peu la suite de l'émission d'aujourd'hui. L'école face à la précarité familiale. Comment et pourquoi l'école renforce les inégalités. On parlera aussi des parents d'élèves si mal à l'aise avec l'école.